Je voudrais qu'on lise tout d'abord dans Jean chapitre 2. Allez, je vous invite à une fête, à un mariage. Chapitre 2. On lit au verset 1er. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et puis voilà que la fête se gâte. Le vin ayant manqué. Il devait y avoir des Français dans cette fête-là, non? Le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Bon, vous connaissez la suite, on va s'arrêter là, parce qu'on va lire d'autres textes. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Le verset 3 nous dit, « Le vin ayant manqué. » En réalité, on peut paraphraser autrement en disant, « Ils sont arrivés à un moment donné de la fête, où ils ont constaté, où ils ont dit, on n'a plus rien. On a plus ce qu'il faut pour continuer la fête. » Est-ce que je pourrais m'adresser au moins à quelques-uns ce matin et peut-être tout simplement avec cette parole qu'on vient de lire, laisser le Seigneur, laisser le Saint-Esprit nous interpeller, et peut-être que plusieurs au milieu de nous, c'est pas le même contexte, c'est pas les noces, c'est autre chose, mais plusieurs, vous pourriez dire ce matin, « Pasteur, ce que vous êtes en train de dire, ça me touche, ça me ressemble, c'est ma situation, c'est ce qui m'arrive, quand je regarde, quand j'examine, j'ai plus rien. » Ça vous est arrivé déjà de ne plus avoir rien? C'est terrible quand on n'a plus rien. On a des défis, on a des besoins, on devrait faire ceci ou cela, mais on n'a rien pour répondre. Il y a une femme dans la Bible qui a rendu ce témoignage. Elle est là avec sa belle-fille. Ils reviennent à Bethléem, ils reviennent dans le pays de Dieu, ils reviennent de Moab. Ils ont fait là toutes sortes d'expériences superbes, et puis après, la fête a été gâchée, et Naomi va rendre témoignage au milieu des gens qui la connaissaient. Quand elle revient, elle dira, « Mais l'Éternel me ramène les mains vides. » C'est une terrible expérience. Quand on a le sentiment que Dieu nous ramène les mains vides. Parce que ça ne ressemble pas à Dieu, ça. Nous, Dieu, ça veut dire abondance, ça veut dire bénédiction, ça veut dire miracle, ça veut dire qu'on peut vraiment espérer en lui, on est capable de renverser des murs, des montagnes. Mais quand quelqu'un est obligé, dans son témoignage, c'est là ses sentiments, mes mains sont vides, je reviens, mais mes mains sont vides. Beaucoup de gens sont un jour ou l'autre amenés à faire ce genre d'expérience. Et en réalité, derrière ce qui semble négatif, il y a un chemin de Dieu pour une bénédiction plus grande. Parce que si vous lisez dans le livre de Ruth, vous vous apercevrez que la belle-fille Ruth, à qui Naomi avait dit... où Noémie avait dit, « Mais reste dans ton pays, viens pas avec moi. » Mais elle s'est accrochée, elle s'est attachée. « Et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. » Cette femme qui a les mains vides va être secourue par sa belle-fille. Parce que Boaz, qui va la voir, va être touché, conduit par Dieu. Et va remplir ses mains d'abondance. Et Ruth, avec des mains remplies, va à nouveau donner de l'espérance. à sa belle-mère. Gloire à Dieu. Si vous avez les mains vides ce matin, si vous êtes vidé intérieurement, s'il n'y a plus de ressources, si vous ne savez plus comment faire, et vous avez remarqué dans ces temps-là, il y a tout le temps une accumulation de problèmes. On n'a plus rien, mais les factures continuent d'arriver. On n'a plus rien, on se sent malade, on ne sait plus comment faire. Mais Dieu a déjà préparé du secours pour ceux qui invoquent son nom. Amen. Et si ce matin tes mains sont vides, s'il n'y a plus d'énergie, s'il n'y a plus de force, si tu n'as plus de ressources, nous savons que le Seigneur, lui, est toujours puissant, il a toujours les mains pleines, il sait toujours comment faire, et on trouve dans sa présence un accueil formidable. Amen. Là aux noces, il n'y a plus rien, mais comme ils ont fait, selon le conseil de Marie, faites tout comme il vous dira, quand on fait ce que le Seigneur nous dit de faire ou nous demande de faire, eh bien ça finit toujours par la bénédiction. Si on s'entête à la désobéissance, si on s'entête à ne vouloir nous en sortir que par nous-mêmes, si on s'entête dans des résolutions charnelles, si on ne veut pas faire attention au conseil de Dieu, il ne restera pas grand-chose à la fin. Mais si on revient au Tout-Puissant, comme le dit la Bible, on trouvera la bénédiction. Et ce matin, on veut la trouver auprès du Seigneur. Quand on a eu notre rencontre du comité, j'ai très courtement, j'ai cité quelques exemples où on voit que si Dieu est avec nos mains, même s'il n'y a pas grand-chose dedans, ça peut produire beaucoup. Moïse, le Seigneur lui rappelle la vocation. Il l'a oublié, ou peut-être essayé de l'oublier depuis 40 ans. Lui, l'Égypte, ça s'est terminé en mauvais souvenir. Il a refait sa vie. Il est marié, il est dans l'entreprise familiale, ça marche plus ou moins bien. En tout cas, il fait paître les troupeaux de son beau-père. Il n'y a pas trop de problèmes pour lui, sauf que Dieu le ramène. Et Dieu veut nous ramener là où on a peut-être oublié. Dieu ramène Moïse. Dieu appelle à nouveau Moïse. Et puis, devant cette difficulté, Moïse est un petit peu désarçonné. Et le Seigneur lui pose une question. Et quelquefois, c'est important que Dieu nous pose une question. Nous, on a des milliers de questions à poser à Dieu. Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi pas ça? Et pourquoi tu ne fais pas comme ça? Et pourquoi tu tardes de temps? Ça ne vous arrive pas, ça? On est vraiment en bas, nous. Mais celui qui est en haut peut quelquefois nous poser des questions. Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Et Moïse va dire, mais dans mes mains? Seigneur, tu ne vois pas bien? J'ai rien dans mes mains. Si, j'ai un bâton. Vous voyez, vous, délivrer des millions d'esclaves de l'Égypte avec un bâton? Vous avez déjà essayé? Il faut être un peu fou. Mais si Dieu est avec le bâton que nous tenons dans les mains, est-ce qu'on peut réussir? Vous êtes d'accord? Vous ne trouvez pas que c'est assez semblable à ce qui nous arrive maintenant? Quand on regarde notre monde, quand on regarde notre France, quand on écoute l'actualité, mais on a l'impression qu'il y a du désordre partout, il y a du péché partout, il y a de la misère partout, il y a de la détresse partout, il y a des gens qui pleurent partout. On finit par dire, mais comment est-ce qu'on va faire? Des milliers de réfugiés partout. Comment est-ce qu'on va faire? Des tas de gens qui vivent sans le salut, qui ignorent la grâce. Et cette tâche, elle nous est donnée par le Seigneur. Et quand on regarde nos mains, on a vraiment l'impression qu'elles sont vides. Vous vous rendez compte, quand le Seigneur a parlé aux disciples, il va leur dire, restez à Jérusalem, Eux, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est partir ailleurs. Partir. Parce que Jérusalem, c'est la ville la plus terrible. On a fait mourir Jésus. Et si on attrape les disciples, ça va peut-être mieux pour eux. Ils sont calfeutrés dans cette chambre haute, ils tremblent de peur, ils ont de la crainte pour demain. Le Seigneur arrive au milieu d'eux, que la paix soit avec vous. Et le même discours, vous allez rester à Jérusalem. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et voilà que cette ville qui leur faisait peur si terrible a maintenant un autre visage devant les yeux des disciples, parce que le Seigneur va venir avec puissance en les baptisant dans le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils ont rempli Jérusalem de la connaissance du Seigneur. Et la Bible dit aussi dans le livre des Actes que beaucoup de sacrificateurs obéissaient à la parole du Seigneur. Ils ont bouleversé le monde d'alors avec des mains qui semblaient si vides, mais le Seigneur les a remplis de son esprit et ils ont accompli la mission. Est-ce que Dieu peut le faire avec nous? Vous êtes d'accord? Est-ce que Dieu peut le faire avec moi? Est-ce que Dieu peut me bénir dans le témoignage? Est-ce que je peux apporter au Seigneur ou amener dans les réunions des âmes nouvelles? Est-ce que je peux toucher quelqu'un cette semaine? Parce que souvent, nous, on pense on verra dans 2 mois, dans 3 mois, quand on sera en meilleure forme, quand ça ira un peu mieux. Non, mais il faudrait que ça commence maintenant ou que ça continue. Dire, Seigneur, mes mains sont vides, mais tu m'as donné de ton esprit. On peut avoir des programmes, on peut établir beaucoup de choses. Il faut surtout que Dieu soit avec nous. Et ça peut tout bousculer. Seigneur, fais-nous grâce. J'ai entendu quelque chose ce matin qui est quand même assez bouleversant. Ce père qui amène sa fille pour lui acheter quelque chose, et quand il achète quelque chose, c'est des serpents. Vous aimez les serpents? Pas terrible les serpents. C'est beau, il y a de belles couleurs, il y a un aspect très attrayant, peut-être attirant, mais ça peut faire beaucoup de dégâts, les serpents. Et au niveau des enfants, au niveau des jeunes, aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts. Et le diable fait beaucoup de dommages. Et ça commence dans les maisons. Ce n'est pas seulement dans la rue, c'est dans les maisons. De toutes sortes de manières. Ça commence dans nos maisons. Et un jour, une femme, elle a crié sa détresse au serviteur de Dieu. Elle dit, mais j'ai mes 2 fils à la maison, ça va mal. On a une dette qu'on ne peut pas payer. Mon mari est mort. C'est vrai, il craignait Dieu, mais toutes les difficultés n'étaient pas vaincues. La dette est énorme. Et mes 2 enfants vont partir en esclavage. Déjà, les créanciers frappent à la porte. Elle n'a plus d'espérance, cette femme. Elle est dans un désarroi profond. Elle crie au prophète, mais... Et lui va lui demander, mais qu'est-ce que tu as? T'as pas entendu? J'ai plus rien. Plus rien. Et même mes 2 enfants, on va les prendre. Qu'est-ce que tu as chez toi? J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Et cette femme, ça y est, elle va se rappeler. C'est vrai, dans ma maison, il me reste encore un pot avec un peu d'huile. Un petit peu d'huile. Avec un petit peu d'huile, quand c'est passé dans les mains du Seigneur, c'est devenu une abondance. Gloire à Dieu. Et les enfants qui devaient partir en esclavage vont rester libres. Vous priez pour vos enfants. Vous priez pour les jeunes. On prie que Dieu les fasse réussir, on prie que Dieu les bénisse, on prie que Dieu les garde, on prie que Dieu les sauve. On a besoin du salut dans nos maisons, pour nos enfants, pour nos jeunes. Parce que le diable est là, les guette, veut les prendre en esclavage. Quand les enfants ont vu couler cette huile, c'est une huile de miracle, ce petit peu d'huile qui continue de couler, de remplir ces vases. Vous connaissez les textes, mais ça a dû les impressionner. Est-ce qu'on ne peut pas demander de l'huile dans nos maisons ce matin? Pas le sieur ou autre, mais vous avez compris. On est dans un temps, les fêtes de Pentecôte, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nous, personnellement? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Seigneur, donne-nous de l'huile dans nos maisons et que nos enfants voient l'huile couler. Qu'ils voient l'huile transformer l'échec en bénédiction, qu'ils voient l'huile chasser la mort et apporter la vie divine, qu'ils voient l'huile chasser la maladie et apporter la santé, qu'ils voient l'huile chasser le désespoir et apporter la joie dans nos maisons. Est-ce que nous croyons que c'est possible, ça? Cette femme a été sauvée, ses deux enfants ont été sauvés parce que l'huile a coulé. Seigneur, fais couler l'huile dans nos vies et qu'elle coule dans nos maisons. Amen. Peut-être un dernier texte pour ne pas être trop long. Quelquefois, ça demande du courage de venir vers le Seigneur. Et on a aussi un peu entendu cela ce matin. Du courage en venant vers le Seigneur et en lui disant « Ben, ça ne marche plus dans ma vie comme ça marchait avant. » Si je pouvais retrouver ce que j'ai perdu, et peut-être pour d'autres, trouver ce que je n'ai jamais reçu. Et vous avez cette histoire vraie des fils des prophètes qui veulent un nouveau lieu d'habitation, ils veulent avancer, ils veulent progresser, ils ne veulent pas faire seulement à leur tête puisqu'ils disent à l'homme de Dieu, consent, viens avec nous. Et l'homme de Dieu va dire oui. Et pour eux, c'est encourageant, il est avec nous, et comme le Seigneur est avec nous. Et puis, ils se mettent au travail, et ça marche bien. Pendant un certain temps, chacun il est à sa place, chacun travaille. Vous n'avez pas 10 spectateurs pour un qui abat un arbre, non. Chacun abat son arbre. Et la Bible dit dans cette histoire, un problème arrive, l'un des fils des prophètes, qui travaille de tout son cœur, il va perdre le fer de l'âche qui tombe dans l'eau. Vous avez lu ça déjà. Je ne sais pas si dans son élan, il a continué de taper, mais ça ne faisait plus que du bruit, mais plus aucune efficacité. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son esprit. Est-ce que je continue de faire semblant de taper? Puis qu'est-ce qu'on va dire? Si je parle de mon problème, en plus, ce n'était pas mon outil personnel, c'était un emprunt, ce n'était pas à moi, j'en suis pas le propriétaire. Je ne sais pas les combats qui ont pu se passer au-dedans de lui. Imaginez telle monitrice d'école du dimanche, imaginez tel musicien, imaginez peut-être tel prédicateur, imaginez tel chrétien, tel responsable ici ou là, tel chrétien dans son activité d'église. J'ai perdu. Je suis dans le manque. Qu'est-ce que je dois faire? Faire semblant? Est-ce que je dois vivre hypocritement? Est-ce que je dois cacher mon problème? Il ne faut surtout pas en parler, qu'est-ce qu'on va dire? Et puis, toutes les peurs, les craintes, on va me juger, on va me montrer du doigt, on va me mettre sur la touche. Puis j'entends déjà tout cela qui disait déjà avant même que je commence, lui, il ne faut rien lui confier parce que d'où il vient, ce n'est pas la peine. On en a des combats à l'intérieur. Mais il a été courageux. Il est allé voir l'homme de Dieu et puis il a dit, j'ai un gros problème, j'ai perdu ce qu'on m'avait confié, il n'y a plus d'efficacité dans ma vie, je ne fais plus que du bruit, je balère, je m'amuse contre le vent, je ne construis plus rien. Et vous savez ce qu'a fait l'homme de Dieu ? Il lui a dit, change d'église. C'est pas ça ? Il te faut un autre pasteur parce que celui-là, il ne comprend rien. Ça n'arrive pas à Gap. Ça arrive qu'en Sibérie, ça. Et Sibérie, c'est Nancy d'abord. Les gens, quand ils pensent Nancy, ils pensent Sibérie, vous voyez ? Non, ce qu'il faut, c'est un nouveau programme. Il faut un nouveau séminaire, là. Il y a des gens qui vont bien me faire comprendre le processus de mon... C'est ça qu'il y a eu ? Non. Ça peut être utile, un entretien. Quelquefois, un coup de fil, ça a sauvé une personne. Job disait, je leur souriais quand ils perdaient courage. Un sourire, un accueil, un peu de sensibilité, un peu de temps. L'homme de Dieu, non, il ne l'a pas renvoyé, il dit, mais... Où est ton problème ? Où est-ce que ça se passe ? Ben voilà mon problème, le fer de la hache, il est là. Il est tombé là. Il est au fond de l'eau, là. Il faut du courage pour le dire, ça. Il faut du courage pour, quelquefois, être conduit par Dieu, appeler son pasteur, ou un vrai ami, qui n'est pas toujours là à nous passer de la pommade dans le dos, ou à nous approuver, à nous dire les choses. Il faut du courage pour affronter des réalités avec certains leur dire j'ai échoué, je ne suis pas le gars, la fille, l'homme, la femme, le responsable que vous pensez. Avouez qu'on a une faille. C'est pas facile, il faut du courage. Mais lui l'a fait. Et le résultat, c'est qu'il a été parfaitement restauré dans son travail. Un miracle s'est produit. Le bâton a été jeté. C'est évidemment tout l'aspect de la grâce, c'est à nouveau l'œuvre du Seigneur qui s'opère dans notre vie et à l'occasion, on en a besoin. On en a besoin. On ne traverse pas la vie indemne. On a de temps en temps besoin de se laver les pieds, dit la Bible. On est tous concernés par ça. Il y a des moments de profond découragement dans la vie de quelqu'un, et même quelquefois dans la vie d'un serviteur de Dieu. Mais lui doit garder le sourire, il doit garder ses quatre points le dimanche matin. Enfin, sauf moi, mais moi je suis évangéliste, alors j'ai droit à plus de points. Hein. Il faut du courage. Mais quand le Seigneur nous rencontre... Avec la rédemption, la croix, le salut, il vient à notre rencontre. Alors les choses anciennes passent et d'autres deviennent nouvelles par la grâce de Dieu. Il a retrouvé son mordant, il a retrouvé le fer de l'âge, il a été restauré dans son travail, il a participé lui aussi à la construction de ce nouveau lieu d'habitation. Parce que plutôt que de se cacher, il a dit « voilà où j'en suis ». J'ai besoin d'être aidé. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être aidé ce matin ? Je termine. Un jeune garçon, un jour, est venu vers le Seigneur. Des milliers sont à nourrir. Lui, il a 5 pains, quelques poissons. Pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose dans les mains du Seigneur, ça s'est multiplié. Gloire à Dieu ! Ça s'est multiplié. Si dans nos mains il y a de la générosité, des grâces se multiplieront. On a besoin dans l'œuvre de Dieu de mains généreuses. Et peut-être vous allez me dire, ah pasteur, ils ne peuvent pas prêcher sans parler des sous. Je ne parle pas de sous ce matin. Les finances, c'est un aspect de l'œuvre de Dieu, mais un aspect seulement. Mais on a besoin d'hommes et de femmes qui ont dans leurs mains de la fidélité à donner, de la constance à partager, de la persévérance, de la détermination. Voyez-vous, à Nancy, où on a une petite annexe qui est à une trentaine de kilomètres. Et je ne vous dis pas en 20 ans combien on a quelquefois dit dans le cadre du CA, on va arrêter, ça ne donne rien. On va arrêter. Et puis en parlant, on reprend courage en disant, mais si on arrête, on ne reprend pas. Souvent, quand on ferme quelque part, on ne reprend pas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est en train de réfléchir à acheter un nouveau bâtiment. Parce que Dieu nous fait grâce. Et moi, ce que je souligne ce matin, c'est qu'à l'intérieur de nos petites rencontres, eh bien, quand on était découragé, quand on essayait de voir autrement, il y avait des frères déterminés qui priaient, qui avaient la pensée de Dieu pour nous dire « on continue ». Et ils ont bien fait de nous dire « on continue ». Parce que par la grâce de Dieu, on va gagner. On a besoin de gens qui ont dans leurs mains du temps à consacrer, de la prière, de l'intercession. Et pas de gens qui viennent à une réunion de prière, mais des gens qui prient, qui savent le chemin vers le trône de la grâce. On a besoin de gens qui ont dans leurs mains du service, de l'amour pratique, de la disponibilité, de la patience et puis de la joie, de la bonne humeur. Elle travaille d'une main joyeuse, dit la Bible, en parlant de la femme vertueuse. Alors ce matin, est-ce que Dieu nous parle, nous a parlé? Est-ce que Dieu veut nous amener vers lui et avec ce cœur disposé qui lui dit « Seigneur, on n'est rien sans toi, on n'a pas grand-chose sans toi, mais on s'appuie sur toi ».